Repenser l'eau à l'air, la gestion de l'eau, hein, en bien commun, ou on pourrait dire en patrimoine commun, parce que c'est, on peut questionner, je commence la bataille sémantique, on peut questionner la notion de bien. À l'ère du changement climatique contient évidemment un enjeu de transition majeur, mais également un enjeu démocratique majeur. There is no planet B.
There is no planet blah. Blah, 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 blah. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, copanade!
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h.
L'eau publique, aqua publica. C'était le thème central des rencontres européennes de l'eau à Lyon les 4, 5 et 6 avril dernier. La personne que nous avons entendue ouvrir ces rencontres est Anne Gros-Perrin, élue écologiste à la métropole de Lyon, où elle assure la présidence de Eau du Grand Lyon. Le Grand Lyon étant le nom donné à cette métropole qui rassemble 58 communes et 1,5 million d'habitants. À Lyon, l'eau est un sujet de débat public depuis longtemps et l'association Eau Bien Commun Lyon Métropole, initiatrice de ces rencontres, fournit depuis des années une réflexion intense qui a inspiré la démarche de mise en place de la régie publique depuis 2020. On écoute Anne Gros-Perrin résumer les principes qui ont guidé cette construction.
Au-delà de la gestion publique, la situation, la question de l'eau, en fait, la situation hydrologique de notre pays, en France, mais partout en Europe, a placé ce sujet au cœur du débat public de manière assez récente. Depuis 2022, les médias se sont mis à parler, de ce sujet de manière très importante, notamment en 2022, où il n'y avait pas de jour quasiment sans article de presse sur ce sujet-là. Et ça commençait généralement par des titres qui faisaient le buzz sur la guerre de l'eau, l'or bleu, etc. Cette bataille démocratique, c'est d'abord une bataille, en tout premier lieu, qu'il faut qu'on mène, qui est une bataille sémantique. Il faut refuser d'utiliser le mot « guerre de l'eau ». Il est à l'opposé d'une conception démocratique de la gestion du bien commun. Il faut refuser le terme « or bleu ». On pense tous à la ruée vers l'or. Ça veut dire qu'on considère que c'est une richesse. Même le mot « ressource » aujourd'hui induit une potentielle attitude extractiviste et donc une appropriation de la richesse par un certain nombre, une posture prédatrice comme les êtres humains ont coutume de l'avoir vis-à-vis de nos ressources naturelles. Même le mot partage pose un problème, parce que quand on utilise le mot partage, on utilise le mot partage entre les usages humains et on oublie bien souvent l'ensemble des écosystèmes. Moi j'ai entendu récemment quelqu'un dire « l'eau nous appartient ». Dans le combat que nous menons pour la gestion publique, nous le disons en tant que citoyens, nous disons « l'eau nous appartient », elle n'appartient pas à des sociétés privées. Or, il faut qu'on arrive, nous, à nous extraire de ce discours-là, parce que l'eau ne nous appartient pas. L'eau appartient à personne, elle est nos conditions de vie humaines, mais elle est également l'ensemble, les conditions de vie de l'ensemble des écosystèmes qui nous font vivre. Donc il faut qu'on intègre ça maintenant aussi, nous, dans notre manière de voir les choses. C'est un sujet qui a été très technicisé dans un entre-soi des acteurs de l'eau, qui a contribué à éloigner les citoyens des enjeux politiques de la gestion de l'eau. Nous, en tant que citoyens, on avait très peu conscience du cycle de l'eau. Ça coulait à notre robinet, on ne se demandait pas trop d'où ça venait et on se demanderait pas trop où ça allait après. Aujourd'hui, effectivement, cette situation dans laquelle nous sommes, elle nous amène à penser ça autrement. Et il y a une nécessité vraiment importante de réappropriation citoyenne de ces enjeux, car ils ne sont pas techniques. Ils sont sociaux, ils sont économiques, ils sont écologiques. Ce sont des enjeux de droits humains, ce sont des enjeux de conditions de vie planétaires, mais ce ne sont pas des enjeux techniques. Donc tous ceux qui nous vendent de la technologie, ça a été évoqué également, pour faire face à ce qui nous attend dans les années à venir, c'est une illusion totale. La technologie ne nous sauvera pas. La technologie peut nous aider, parfois, mais elle ne nous sauvera pas. Donc il faut aussi qu'on mène cette bataille sur le vocabulaire et sur la conception des choses. Juste un petit mot sur la gestion de l'eau en France. On est quand même toujours, ça s'est construit sur un référentiel extractiviste. Il y a eu trois grandes lois en France, en 64, en 92 et en 2006. Et ces trois grandes lois, elles sont quand même toujours dans un référentiel extractiviste qui a gravé à l'échelle d'une organisation institutionnelle particulièrement dense, avec des grands bassins hydrographiques, des sous-bassins et des acteurs nombreux, ce référentiel-là. Et donc ce référentiel a une panoplie aménagiste qui s'appuie sur une conception de la ressource qui est destinée à des usages, comme je vous le disais, et non à un patrimoine commun vital. Donc il faut qu'on sorte de cette forme d'entre-soi, puisque ce référentiel, il a consolidé en fait cet entre-soi des acteurs de l'eau. Il a aussi joué un rôle très important dans les choix de modes de gestion, en France en particulier, qui ont été confiés à des sociétés privées, les élus disant « c'est un sujet technique, on ne sait pas faire, on remet à d'autres cette responsabilité ».
Cette réflexion présentée par Anne Gros-Perrin, présidente de la Régie de l'eau du Grand Lyon, a irrigué, le mot s'impose, partout en France ces dernières années. Entre 2008 et 2023, la part de la population desservie par une régie publique est passée de 38% à presque 50%, avec une nette accélération à partir de 2020 en raison du passage en gestion directe de collectivités importantes comme la métropole de Lyon, et bien sûr, celle de Bordeaux. Nous avons donc sollicité Sylvie Cassou-Scott, homologue d'Anne Gros-Perrin à la Régie de Bordeaux, pour faire le point sur la mise en place de cet établissement public, ses orientations et les choix tarifaires qui viennent d'être établis. Une régie qui vient de décider d'ailleurs il y a quelques jours d'intégrer la gestion de l'assainissement et des eaux pluviales.
Nous sommes en ligne avec Sylvie Cassou-Scott, adjointe au maire de Mérignac, vice-présidente de Bordeaux Métropole, déléguée à l'eau et à l'assainissement et présidente de la nouvelle régie de l'eau Bordeaux Métropole. Donc la gestion de l'eau par la régie de l'eau, ce sont 23 communes concernées, c'est-à-dire pratiquement toute la métropole, sauf quelques communes, Martignas, Ambarès, Bassas, Carbon-Blanc et Artigues, et 300 000 foyers raccordés, ce qui correspond à 40-45 millions de mètres cubes d'eau consommés. Alors, la métropole bordelaise a choisi, dès sa mise en place, de passer la gestion du service de l'eau sur la métropole en régie publique. Celle-ci est effective depuis début 2023. Est-ce que vous pourriez nous préciser, Sylvie Cassou-Scott, les enjeux de cette décision?
Bonjour. Oui, les enjeux de cette décision, c'était effectivement de considérer, de partir du principe que l'eau est un bien commun, un bien vital, essentiel, qui de nos jours se raréfie à cause du dérèglement climatique. Et il nous apparaissait évident, pertinent, indispensable de pouvoir reprendre la maîtrise de la gestion de l'eau et maintenant bientôt de l'assainissement dans une totale maîtrise de cette denrée, comme je le disais, qui se raréfie et qu'il faut protéger, qu'il faut préserver. L'eau n'étant pas un bien marchand.
Voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas bien marchande, mais en quoi la régie est un outil à la fois écologique et économique? Je suppose qu'il y a les deux dimensions pour l'eau.
Alors, dire que l'eau n'est pas un bien marchand, c'est affirmer que 100% de la facture d'eau revient à l'eau. elle n'est pas redistribuée auprès des actionnaires, notamment. Hein. Donc, nous avons un budget qui est composé exclusivement des recettes des factures d'eau, qu'elles soient des ménages, de tous les acteurs, hein, les collectivités, tous les grands comptes, les entreprises, etc., qui nous permet donc de pouvoir doubler notre capacité d'investissement dans les années à venir, afin de pouvoir à la fois renouveler toutes nos canalisations, on a 3200 km de canalisation d'eau, de pouvoir s'engager dans un plan de fuite hein, qui est très offensif, que nous avons d'ailleurs commencé à la fin des années 2023, et de pouvoir aussi poursuivre dans une vers la transition écologique pour trouver tous les moyens de modifier les usages, modifier les comportements, etc.
Alors, au cœur du fonctionnement de cette régie, il y a une nouvelle tarification donc, qui a été présentée là, dans la dernière newsletter qu'on a reçue de Bordeaux Métropole. Vous indiquez donc, dans cette newsletter que l'idée de ce nouveau système est de se mettre en accord sur le territoire afin que chacun puisse mesurer la distinction entre consommation essentielle et confort et de permettre aux plus sobres d'être récompensés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette nouvelle tarification atteint cet objectif?
Alors, nous souhaitons qu'elle atteigne ses objectifs. Hein. C'est une tarification qui est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024. Donc, on va nous donner un peu de temps pour évaluer ce que ça a pu donner. Jusqu'à maintenant, nous étions sur une tarification progressive, justement, hein, qui était à différencier, effectivement, l'eau essentielle, l'eau de confort. Cependant, nous avons, il faut le savoir, sur la métropole de Bordeaux, 40% de nos usagers de l'eau ne reçoivent pas de facture d'eau parce qu'ils vivent dans un habitat collectif. Or, ces 40% d'usagers, finalement, payaient le tarif le plus élevé parce que, comme ce sont leurs bailleurs qui recevaient la facture, c'est des factures sur des gros mètres cubes. Et ensuite, ces bailleurs donc divisent par le nombre de logements, ce qui n'est pas vraiment équitable parce qu'on ne sait pas combien il y a de personnes derrière un compteur déjà, quand il y en a un, mais là, derrière un logement, encore moins. Donc, on a fait un bilan de cette tarification progressive qui nous a amené, au bout de beaucoup de travaux, hein, de réflexions, à choisir un seul et même tarif pour tous. Donc, nous avons un seul tarif de l'eau à 1,51 € le mètre cube. Hein. Et nous avons par contre baissé considérablement la part fixe que tout le monde paye, qui était de 60 €. Eh bien, nous l'avons baissé à 40 €. Et nous avons aussi fortement diminué l'abonnement, enfin le frais d'accès au service, que nous avons ramené à 15 €. Donc, on a opéré ces changements en visant à ce que cette tarification soit la plus juste, soit la plus lisible aussi, qu'elle soit aussi sociale, puisque parallèlement à cela, nous avons et nous sommes en train de travailler avec la CAF pour pouvoir verser de façon automatique, sans qu'ils le demandent, de façon automatique, un chèque eau à tous les ménages qui rempliront un certain nombre de critères que nous avons arrêtés selon la composition de la famille et selon les revenus du ménage. Nous savons qu'il y a, si vous voulez, un seuil qu'on appelle la précarité hydrique qui est de 3% d'un budget. Et donc, nous avons arrêté un certain nombre de critères qui permettra à la CAF de nous dire ce sont tous ces foyers qui doivent recevoir pardon un chèque eau d'un montant de 10, 20 €, 30 € selon les cas.
Est-ce qu'à consommation égale, ben, je prends un exemple plus caricatural, mais le tarif sera différent pour un foyer de 5 personnes économes et pour un couple sans enfant avec piscine?
En fait, ce que je disais auparavant, c'est que les personnes qui étaient dans un habitat collectif, c'est 40% d'habitants de la métropole, ceux-ci donc avaient le tarif le plus fort, plus élevé même qu'une famille qui vivait dans une maison individuelle avec piscine. Donc aujourd'hui, ce que ça va changer, c'est que la part fixe, elle est la même pour tout le monde. Elle a été considérablement baissée pour mettre tout le monde un peu sur un même pied d'égalité. Et ensuite, c'est une part variable. La part variable, c'est celle qui va varier effectivement selon la consommation d'eau de chacun des ménages. Donc plus on consomme, plus cette part variable va être élevée et donc plus le prix, la facture sera élevée. Donc là, on est effectivement sur la recherche d'une tarification la plus juste. Hein, c'est vraiment à la consommation d'eau que la facture va être effectivement se faire. Hein, et en même temps, de donner des indicateurs à tous les ménages pour dire quel est le volume de mètres cubes d'eau qu'il est raisonnable de consommer lorsqu'on est parent, lorsqu'on est une personne, deux personnes, quatre personnes, six personnes. Donc, sur cette facture, on aura effectivement la possibilité de comparer sa facture d'eau en fonction de sa consommation d'eau avec ce qu'il est raisonnable de consommer. Et tout le monde sera facturé sur un seul et même tarif qui est donc 1,51 €.
Vous n'avez donc pas choisi la solution qu'a choisi la ville de Lyon, qui a choisi de faire, enfin la métropole plutôt, Grand Lyon, de faire les premiers mètres cubes gratuits afin d'assurer donc le droit à l'eau pour tous et puis de faire payer un peu plus cher, bien sûr, les mètres cubes au-dessus du 12e.
Alors, ce qui nous différencie de Lyon, hein, puisque nous sommes très en relation et en coordination étroite, et nous sommes dans un même réseau d'ailleurs, le réseau France Eau Publique, hein, nous avons fait ce choix après avoir expérimenté depuis 10 ans la tarification progressive à Bordeaux Métropole. C'est en fait, si vous voulez, le bilan que nous faisons de cette tarification progressive, que j'ai pu d'ailleurs présenter hein, au CESE à Paris, au Conseil économique et social et environnemental, qui effectivement, lui aussi, à la demande de la Première ministre, a dû faire un travail de réflexion et d'analyse sur le bien fondé de cette tarification progressive, et convenez comme nous qu'elle ne peut pas s'appliquer partout, parce que nous ne sommes pas tous égaux sur les mêmes territoires, nous n'avons pas la même composition sociologique, nous n'avons pas, par exemple, sur le territoire, quand je vous dis 40%, c'est énorme, hein, c'est presque la moitié, des métropolitains qui n'ont pas de facture d'eau parce qu'ils n'ont pas de compteur individuel. Et on n'est pas aujourd'hui dans la possibilité d'installer des compteurs individuels pour tous, hein, ce qui nous coûterait 10 millions d'euros, hein, faut le savoir. Mais on est dans cette volonté-là parce que avoir un compteur individuel permet effectivement de vérifier sa consommation. Mais nous avons fait une étude et avec d'ailleurs le même laboratoire que j'ai conseillé à Lyon, d'ailleurs, mais qui nous dit que la facture d'eau n'influe pas sur le comportement des personnes. Pourquoi ? Parce que ça peut paraître difficile à entendre, mais la facture d'eau, elle n'est pas chère. Le prix de l'eau en France est bien moins élevé que dans beaucoup d'autres pays. On ne peut pas comparer une facture d'eau à une facture d'énergie, de gaz, d'électricité. Quand on a vu l'augmentation des charges électricité et gaz en 2022-2023, on s'est rendu compte que les Français pouvaient faire un gros effort pour diminuer leur consommation, pour chauffer moins chez lui, etc. Ça n'est pas le cas de la facture d'eau. Si je vous demande combien vous payez votre facture d'eau par an, vous ne pourrez pas me le dire parce que elles ne sont pas aussi élevées que les autres charges. Par contre, un ménage qui a très peu de revenus saura me le dire. Auquel cas, tous ces revenus, tous ces ménages, et c'est pour ça que je dis que nous avons une tarification sociale et environnementale, c'est que nous avons opté pour l'automaticité de l'aide, avec donc en se mettant en rapport étroit avec la CAF, pour attribuer automatiquement, sans qu'il y ait demande des ménages, un chèque eau pour nous garantir qu'il n'y aura pas de précarité hydrique. En sachant que nous l'avions déjà, hein, la tarification sociale, nous l'avions déjà installée là aussi à Bordeaux Métropole depuis plus de 10 ans. Et là aussi, nous avons fait un bilan cette, il n'y avait pas, il fallait passer par un CCAS pour demander une aide pour payer sa facture d'eau. J'ai réuni tous les CCAS de Bordeaux Métropole. Moi, j'en avais fait moi-même d'ailleurs le constat puisque je suis vice-présidente d'un CCAS. Et nous avions constaté que nous n'épuisions pas notre budget eau. Pourquoi? Parce que les personnes ne le demandaient pas. Pourquoi? Parce que celles-ci, vivant le plus souvent dans un habitat collectif, ne recevaient pas de facture d'eau. Elle était, si vous voulez, ils recevaient cette facture d'eau en plus de, enfin, dans les charges liées à leur logement. Donc, elle passait un peu inaperçue. Donc là, on a revu les choses et on a décidé donc et moi je plaide depuis longtemps, même pour toutes les aides d'ailleurs, sur l'automaticité des droits, c'est-à-dire pour la lutte du non-recours aux droits et donc de l'automaticité de l'aide. On n'attend pas que les personnes soient sous l'eau finalement
pour venir quémander.
Demander, quémander, comme vous l'avez dit très bien, quémander une aide. Nous le faisons systématiquement à partir de critères que nous avons choisis.
Alors, ces choix de tarification sont assez complexes et à Lyon, ce qui était exposé dans le oui. colloque du mois d'avril, oui. du début du mois, c'était oui. une expérience d'assemblée citoyenne pour justement oui. voir sur place, sur pièce, les effets des choix en matière de tarification, puisque oui. ces assemblées citoyennes qui se sont réunies pendant de longs oui. mois ont fait des propositions oui. qui ont été ensuite traduites dans des tableurs Excel par les techniciens de la régie pour voir oui. quelles en étaient les conséquences et pouvoir ainsi comparer de façon éclairée des choix. Est-ce qu'il est prévu dans la régie publique de l'eau Bordeaux Métropole un fonctionnement de type assemblée citoyenne qui participe à ces choix et à l'élaboration de la politique de l'eau?
Alors, je vais vous répondre en vous disant déjà que quand on passe en régie publique, on est donc sur un établissement public à caractère industriel commercial, mais qui est géré par un conseil d'administration composé d'élus, donc d'élus de la métropole, mais aussi de représentants d'associations. L'une, c'est la CEPENSO, qui est représentée au C1, et voilà, et donc une association de défense de l'environnement, ça nous paraissait important, et une autre qui est la CLCV, qui est donc là aussi la Confédération du logement et du cadre de vie, qui représente les usagers. Donc déjà, nous avons travaillé avec eux pendant un an, ainsi qu'un groupe de travail d'élus, pour arriver et convenir ensemble du meilleur modèle de tarification à partir du bilan que nous faisions de la tarification progressive. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu ce que plaidait d'ailleurs le président Macron, voilà un an, dans le plan eau, il préconisait cette tarification progressive sur l'ensemble du territoire. Et nous avons fait la démonstration que ce n'était pas quelque chose d'homogène et qu'il fallait laisser les territoires faire des choix en fonction de leur territoire et de leur configuration particulière. Par exemple, quand vous m'avez parlé de Lyon sur la gratuité, je ne vous ai pas répondu sur le fait que nous avons choisi ensemble, associations et élus, de ne pas appliquer la gratuité parce qu'on a une tarification sociale. Hein, et la gratuité, pour nous, s'avère particulièrement injuste parce que là, c'est tout le monde est concerné par la gratuité, y compris les gens qui peuvent payer. Or, on sait que l'eau est de plus en plus... va connaître une augmentation dans son prix de l'eau parce que nous avons des gros projets structurants en cours et à venir, le renouvellement des canalisations, les plans fuites, etc. Et puis moins on vendra d'eau, parce que c'est quand même ça, on vend de l'eau finalement, et bien moins on en vendra, moins on aura de recettes. Donc il faut bien arriver à trouver une articulation et surtout ne pas laisser penser et ne pas laisser croire que l'eau, c'est gratuit. L'eau, elle est gratuite chez nous en Gironde parce que, effectivement, on va aller la chercher dans les sous-sols, hein, dans les nappes profondes. On a cette chance-là d'avoir une eau de grande qualité. Pour autant, il faut quand même la distribuer. Et donc, la distribuer sur un territoire qui est quand même très grand. Hein, quand vous allez de Saint-Aubin à Parampuir et que vous allez ensuite sur Senon, Leurmont, il faut la distribuer avec des canalisations très importantes, et c'est ça qui coûte, hein, et c'est ce qui coûte aussi en maintenance. Donc la gratuité, c'est annonce à notre sens, hein, ça n'était pas forcément comment dire le bon signal, surtout aujourd'hui où il faut vraiment être très soucieux de sa consommation d'eau. Ça nous semblait pas être un bon message et un bon symbole. Par contre, on garantit effectivement qu'il y aura accès à l'eau pour tous sur la métropole. D'abord, parce que j'ai dit de la question sociale, et d'autre part, la tarification sociale, et d'autre part, par le travail que nous allons faire auprès des campements et des bidonvilles, parce qu'on en a quand même beaucoup sur la métropole, en garantissant l'accès à l'eau à ces populations. Nous allons mettre aussi en place un conseil des usagers. Donc, au-delà du conseil d'administration, les régies, la gestion publique, c'est aussi un mode de gestion démocratique. Pour ça, le conseil d'administration est un outil, mais on va au-delà et nous allons mettre en place un conseil des usagers en 2024. Donc, dans les mois qui viennent, nous allons faire un appel à candidature, à volontariat pour tous ceux qui voudront intégrer ce conseil des usagers et qui réfléchiront sur des problématiques qui leur tiennent à cœur, qu'ils considèrent être nécessaires, importants, dont la tarification, bien sûr, qui pourra faire l'objet d'un suivi, d'un contrôle, et pour, comme vous me posiez tout à l'heure, évaluer si nous avons bien atteint nos objectifs ou pas en choisissant ce mode de tarification. Et puis, nous allons passer l'assainissement, hein, au contraire de Lyon, mais là, on est sous une plus grande régie. Hein.
C'était le 12 avril que la métropole a décidé d'étendre la régie à l'assainissement et à la gestion des eaux pluviales.
Oui, c'est ça. Donc, vous voyez que ça va être une régie qui a une très ambitieuse, hein, dans sa vocation, dans sa mission. Et donc, là aussi, on va, en intégrant l'assainissement et la gestion des eaux pluviales, et vous pouvez l'imaginer dans un changement climatique comme nous connaissons aujourd'hui, avec soit pas assez d'eau, soit trop d'eau, on a beaucoup d'investissements à faire dans nos infrastructures et puis la pollution aussi, garantir une qualité d'eau et de notre service d'assainissement. Et donc, on va revoir bien évidemment à ce moment-là, on va réasseoir la tarification. Ce sera un moment, 3 ans plus tard, de pouvoir faire une évaluation et une décision, un choix de poursuivre ou non sur le modèle que nous sommes donné. Alors, je ne l'appelle pas assemblée citoyenne parce que vous l'avez entendu, hein, c'est un conseil des usagers. Donc, voilà, elle va être limitée. Une assemblée citoyenne à Lyon, ils l'ont fait avant nous. On n'est pas sur le même timing, en fait. Oui. Hein. Lyon a choisi de faire une assemblée citoyenne avant
de passer en
régie, leur
régie,
voilà, avant qu'elle soit opérationnelle. Nous, nous avons eu tout un chantier de mise en œuvre de la régie et nous enclenchons donc le conseil des usagers dès le début de sa création, en fait. Mais enfin, on vise les mêmes objectifs, tous. On vise les mêmes objectifs, autant dans notre tarification, hein, au regard de la configuration de nos territoires. On vise aussi, et on a la même ambition de vouloir avoir Alors nous, on a voulu la gestion de l'ensemble du cycle de l'eau, ce qui n'est pas le cas de Lyon, c'est-à-dire là vraiment de l'eau, l'assainissement, les eaux pluviales. On aura la maîtrise de tout le cycle de l'eau, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau.
Les compositions aquatico-musicales de cette émission sont celles de Christian Vieux-Sens, un musicien girondin, compositeur, multi-instrumentiste, peintre et même conteur. Après les choix de gestion de la régie de l'eau de Bordeaux Métropole, qui nous ont été présentés par Sylvie Cassou-Scott, nous donnons la parole à Florestan Groult, élu insoumis et vice-président d'eau du Grand Lyon, rencontré lors de ses rencontres européennes de l'eau début avril. Avec Florestan, nous avons pas mal échangé sur l'eau et au-delà, sur les choix de société qui orientent les politiques de l'eau.
Dans votre projet de mise en régie publique de l'eau que vous menez depuis 2 ans, vous venez d'instaurer une nouvelle tarification.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que tu peux présenter les principes ?
Bien sûr. Alors, en fait, bon, cette tarification, déjà, ce qui était important pour nous, c'est la manière avec laquelle on voulait la construire. La tarification, on voulait pas que ça soit simplement un instrument de financement. On voulait que ça soit un instrument de financement qui ait du sens et notamment qui ait pour sens une justice sociale contributive. C'est-à-dire que des services publics qui sont essentiels, qui ont la charge de répondre à des droits humains fondamentaux parce que c'est des besoins vitaux et essentiels, cette justice contributive est absolument indispensable. Pour le faire, pour partager ces enjeux-là, si tu veux, un petit peu dans le même état d'esprit que l'avenir en commun, on a souhaité faire de nouvelles fabriques de l'action publique et donc mettre en débat et en échange et en délibération cette question-là de la tarification avec notre assemblée des usagers de l'eau qu'on a constituée, qui a été initiée et qui s'est constituée au moment du retour en régie publique. Et on a fait une concertation qui a été très itérative. On a d'abord discuté des principes de réussite, de ce qui nous était important dans cette tarification, de quelle finalité on voulait lui donner. On a partagé aussi les contraintes de la réglementation. On a partagé aussi les contraintes physiques du réseau qui, comme je disais tout à l'heure, parfois nous amène à ce qu'il y ait un seul compteur d'eau en pied d'immeuble, ce qui fait qu'on ne connaît pas vraiment ce qui se passe derrière. De toute façon, on ne connaît pas ce qui se passe derrière un compteur même de logement individuel. On ne sait pas si on est 1, 2, 3 ou 4. Et à la fin de ce processus, on a atterri sur une tarification qui se tient dans un tout et dont chaque volet est complémentaire et se renforce mutuellement.
Alors, 12 mètres cubes gratuits, c'est par compteur donc ?
12 mètres cubes, alors je vais la décrire rapidement, une différenciation des usages, comme le préconisait souvent Gabriel Amar, entre les domestiques et les non-domestiques, parce que on considère que 1 mètre cube pour remplir sa piscine ou pour une activité industrielle, c'est pas la même chose qu'1 mètre cube pour boire. Donc une première différenciation entre domestique et non-domestique, et à l'intérieur des usagers dits domestiques, une progressivité, 12 mètres cubes gratuits par compteur, par usager, par abonné, de 12 à 180 mètres cubes. Donc ça, là, 12 mètres cubes gratuits, voilà, combat sur l'universalité, je reviendrai pas dessus, mais c'est quand même très important de réaffirmer les dimensions d'universalité dans les services publics. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un héritage du programme des jours heureux de l'après-guerre, et ce programme-là, c'était introduire dans nos mécanismes sociaux, dans notre manière de faire société et faire collectif, des remparts aux fascistes. Donc les principes d'universalité, ils viennent pas de nulle part, ils sont, déterminants dans l'héritage et dans la responsabilité qu'on a de cet héritage. Et le fait d'affirmer qu'il y ait 12 mètres cubes gratuits, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit sa statut, qu'on n'ait pas à devoir se justifier d'une éventuelle pauvreté, devoir se distinguer socialement et qu'on soit tous traités comme ça en tant qu'être titulaire de droit, ça me paraît vraiment fondamental. On sort d'une logique de caritativité, de simplement être amené à sa solvabilité économique, mais on rentre vraiment dans l'idée d'avoir accès à des besoins essentiels, fondamentaux, qui me permettent de vivre sans stigmatisation, sans être stigmatisé, Et c'est ça, réduire la pauvreté à la source. Parce que sinon, on est dans une logique où on ne change rien et on aide tout juste à vivre, à mieux vivre sa pauvreté. D'accord, c'est mieux que... Mais à mieux vivre sa pauvreté, à partir d'aide dont on est dépendant et qui nous stigmatise par rapport à d'autres. Donc, on a eu ce déballage. Je t'invite à... J'ai essayé de le résumer dans mon intervention au Conseil métropolitain. Parce qu'on nous disait, oui, mais les 12 mètres cubes gratuits, moi, quand je peux les payer, je préfère les donner à d'autres personnes. Et en fait, c'est vraiment un faux ami. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça? On se distingue socialement en disant, moi, je peux m'en passer. Et donc, toi... je te stigmatise quelque part en tant que personne pauvre, et donc je vais t'aider sous forme d'aide dont tu seras dépendant. Mais voilà, c'est pas des principes de société qui vont au bout d'une lutte résorber la pauvreté, d'annihiler la pauvreté et la misère. Il faut qu'on trouve les mécanismes sociaux pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il était intéressant ce débat, parce qu'il nous a amené à revenir aux mécanismes qui sous-tendent notre société et à redéconstruire tous ensemble la contamination d'une pensée libérale, ultra-libérale et capitaliste qui s'est insidieusement diffusé dans les esprits. Et donc on est revenu aux mécanismes fondamentaux de qu'est-ce que c'est que faire société ensemble, comment on éradique la pauvreté à la source et pas comment on maintient des personnes sous dépendance d'aide. J'ai fait un peu de répétition
non,
là.
Non, mais c'est bien c'était de préciser ce principe fondamental. Ouais. Alors il se décline difficilement dans la réalité parce que les régies de l'eau, même publiques, n'ont pas accès au nombre de gens qui sont branchés derrière le compteur. C'est quand même un peu agaçant au moment où des fichiers électroniques disent tout sur tout le monde. Échanges, on ne puisse pas avoir une information comme ça greffée derrière le...
Ouais. Alors Sylvie, ce que tu dis, c'est très vrai. Je vais faire un tout petit retour en arrière là. Pendant notre... parce que ça, je suis très content qu'on l'ait amené. Pendant notre processus de concertation citoyenne, on a été amené à dire aux habitants et aux usagers, ben voilà, ça c'est la réglementation. Ou voilà, ça c'est nos limites techniques. On n'a pas le nombre de personnes derrière un compteur. Mais à un moment donné, ce que moi je voulais qu'on propose aussi, et du coup ce que nous avons fait aussi avec l'équipe des élus qui étaient... qui étaient d'ailleurs sous la responsabilité d'Anne Gros-Perrin, la présidente de la régie, qui a conduit ça de manière très ouverte, c'est de dire, eh ben on va se garder un temps à la fin de la concertation où on va finaliser la politisation, la déconstruction et la reconstruction de notre compréhension du système pour faire un travail de plaidoyer. Et donc, on va avoir là, avec l'Assemblée des usagers de l'eau, la mise en débat de est-ce qu'on veut sortir de l'eau paye l'eau et est-ce qu'on veut savoir le nombre de personnes qu'il y a derrière un compteur. Et tu vois, en fait, c'est un vrai débat, ça. Moi, je sais pas si... clairement, pour une tarification de l'eau, c'est exaspérant, mais... Moi, je ne sais pas si je veux vraiment qu'on connaisse le nombre de personnes qu'il y a derrière un compteur. Parce que, comme tu l'as dit, en face de ça, on est aussi critique de ces fichiers numériques qui commencent à savoir tout savoir. Et tu vois, là, ça, c'est intéressant parce que dans l'objectif d'être aux responsabilités demain à des niveaux nationaux, ça nous a appris, et ça a été un formidable lieu d'apprentissage, sur comment on gère et comment on résout des tensions entre différentes convictions qu'on a sur différents champs ou chapitres thématiques. Donc la question, elle est toute ouverte. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a trouvé par contre un mécanisme quand même pour le dépasser, ça. C'est que pour s'extraire du compteur, on s'est rattaché à l'ensemble des personnes qui sont au RSA, qui ont des petites retraites, etc. Et on va leur verser un versement solidaire au préventif. Ça, c'est très important. Préventif, sans recours. Ils n'auront rien à faire, à part un clic pour autoriser le versement. Ce que vous voulez. Qui fait que quand la facture d'eau, donc quand leur contribution au service de l'eau dépassera 3% de leurs ressources, tout ce qui est au-dessus va faire l'objet d'un versement solidaire préventif. Donc tu retrouves les principes de la sécu sociale, je contribue selon mes moyens, je reçois selon mes besoins. Et là, je suis bien à la source, je suis bien en préventif, donc je ne suis pas dans l'aide caritative qui nécessite des recours et qui fait qu'on a énormément de non-recours. Attention, hein, je veux un tout petit peu nuancer tous mes propos. On a besoin des aides. On a besoin des aides, etc. Mais il faut qu'on fasse toujours attention à ce qu'on ne fasse pas tout reposer les échecs ou les limites du capitalisme et du libéralisme par des correctifs patch qui sont les premiers à se faire attaquer. Je me souviens, nos députés avaient fait un travail extraordinaire au moment où on a enlevé 5 euros sur les APL. Tu vois, à chaque fois qu'on peut, on va taper sur les chômeurs, on va enlever la CMU, on va enlever 5 euros sur les APL. Donc c'est vrai qu'il faut qu'au maximum, on trouve des mécanismes de fonctionnement de la société qui fait que pour nos besoins essentiels, pour nos droits fondamentaux, à la source, on est à une universalité d'accès parce que c'est nos conditions matérielles d'existence. Le matérialisme historique nous rappelle aussi que l'émancipation des individus et des collectifs humains, c'est aussi la garantie moyens matériels d'existence pour toutes et tous. Et que on peut dire ce qu'on veut, il y aura une émancipation des individus, des collectifs, des meilleures intégrations de la sécurité, des sentiments, quand on aura offert les conditions matérielles d'existence pour toutes et tous, qui avec un peu plus d'égalité, quoi, parce voilà. Qu'on peut me dire ce qu'on veut, mais quand t'en as qui touchent des milliards de dividendes sans rien faire, et quand t'en as qui doivent faire 3 boulots pour pouvoir survivre, on peut pas attendre les mêmes choses de l'un et l'autre, et ça c'est l'injustice sociale la plus flagrante, et c'est celle contre laquelle on veut lutter. Donc l'eau résoudra pas tout, mais si tu veux, ce qu'on a essayé de faire avec l'eau dans la métropole de Lyon, c'est d'imprimer des états d'esprit avec lesquels on peut se réemparer de nos services publics essentiels, nos services publics locaux, et montrer en quoi, en fait, on a su faire la démarche. On a su faire la démarche en s'appuyant sur un processus démocratique, vraiment en adossant une co-construction citoyenne à nos décisions politiques. On a su faire la démarche résolvant les équations qui parfois se contredisent. Donc ne nous caricaturez pas, on n'est pas des idéalistes naïfs, on est des utopistes convaincus qu'une meilleure société, qu'un autre monde est possible, mais on sait tout à fait exercer les responsabilités et l'exercice de la décision, et on a fait cette démarche surtout de remettre du sens dans l'action publique, parce qu'il y a quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui, partout dans les médias, partout par ce gouvernement inique, c'est que les gens ont besoin de symboles aussi, les gens ont besoin de fierté. Et on va pas se mentir, Sylvie, ces 12 mètres cubes-là, ils vont pas tout résoudre, mais il y a une fierté de dire à Lyon, dans la métropole de Lyon, on a garanti les besoins vitaux universels pour toutes et tous. Et on l'a adossé à des actions pour le droit à l'eau, des personnes qui n'ont pas accès à un robinet chez eux et qui ont la garantie que quand ils habitent sur ce territoire-là, ils trouveront une fontaine publique près de chez eux, des bains-douches, une alimentation pour l'eau des squats qui est automatique. Voilà, c'est non négociable. Et ça, c'est quoi ? C'est une société, une communauté de l'eau qui est solidaire dans l'espace et dans le temps et qui te dit quand j'appelle quand j'habite à la métropole de Lyon, j'ai une forme de sécurité sociale de l'eau, de savoir que quoi qu'il m'arrive, ce besoin fondamental et essentiel, il sera garanti pour moi. Ben voilà.
On le voit, entre les deux régies, Bordeaux et Lyon, il y a beaucoup de points communs dans la volonté de reprendre la main sur les enjeux économiques et écologiques liés à l'eau. Il y a aussi des différences dans la philosophie des questions tarifaires à travers la question des premiers mètres cubes gratuits ou dans l'approche démocratique à travers le choix d'un conseil ou d'une assemblée des usagers. On écoute sur ce dernier point Anne Gros-Perrin raconter comment s'est construite la gouvernance de l'eau à Lyon.
La démarche qu'on a eue, nous, à l'échelle du territoire, d'avoir un processus qui nous permette de construire cette gouvernance. On a commencé par un processus de sensibilisation du grand public qui s'est appelé Au Futur. Un processus qui a concerné 8000 personnes dans la métropole. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup parce qu'on est à 1,4 million. Mais 8000 personnes dans un processus de sensibilisation impliquées dans des ateliers, c'est quand même déjà beaucoup. Et ça a été une dynamique extrêmement intéressante parce qu'on a été chercher les gens, non pas sur une réflexion intellectuelle sur ces questions-là, on a basé toute la démarche sur les imaginaires. C'est comment imaginer ensemble un futur désirable avec moins d'eau. Donc c'est placer le citoyen, et n'importe quel citoyen et citoyenne, dans sa capacité à imaginer le futur. Si on en fait un sujet technique, on ne lui donne pas cette possibilité. Si on en fait un sujet de société où on dit chacun a la capacité à imaginer, à amener son imaginaire dans cette construction d'un futur désirable avec moins d'eau, alors là, ça nous permet d'embarquer des citoyens, et on l'a fait donc à travers des ateliers de théâtre, des ateliers de poésie, des vidéos, des tas de choses, le fait qui étaient très souvent des supports culturels, hein, qui ont permis d'aboutir à une démarche qui a donné lieu à une grande journée de restitution et qui a surtout permis d'accrocher des citoyens en fait à cette réflexion et à cette démarche. Et là, les citoyens qui y ont participé, pour un certain nombre, se sont sentis finalement autorisés à intégrer cette réflexion sur la gestion publique et sur la gestion de l'eau. Et donc on a construit ce qu'on appelle aujourd'hui une assemblée des usagers de l'eau, où il y a un certain nombre de représentants d'associations, mais il y a des citoyens lambda qui ont participé à la démarche précédente et qui sont rentrés dans l'assemblée des usagers de l'eau, qui est une assemblée qui est toujours ouverte. Elle regroupe à peu près 120 personnes aujourd'hui. Et cette assemblée, elle a donc désigné, par un vote démocratique, quatre représentants, puisque si on avait réservé quatre représentants des usagers, quatre postes de représentants des usagers au sein de la régie, elle les a désignés par vote démocratique, et qui ont présenté leur candidature. Je crois qu'il y avait 12 candidatures, si mes souvenirs sont bons. Quatre ont été désignés, et elle se saisit, ou elle est saisie, en fait, on l'a saisie de grands sujets structurants et stratégiques pour la gestion de l'eau. Et donc, toute l'année 2023, nous avons travaillé sur la tarification solidaire et environnementale de l'eau.
Et oui, on le sait bien, la démocratie ne se résume pas à l'obtention de sièges dans des parlements. Dans les commissions locales de l'eau, par exemple, sièges des responsables associatifs qui ne représentent parfois qu'eux-mêmes, il faut bien l'avouer. Car la démocratie, pour être vivante, doit être renouvelée, ressourcée, par des imaginaires désirables, comme le dit Anne Grosperrin, forte d'une solide expérience dans l'éducation populaire. Les rencontres de Lyon étaient celles du mouvement européen pour l'eau, et elles ont été l'occasion bien sûr d'échanger sur les différents systèmes de gestion de l'eau en Grèce, Espagne, Slovénie, Italie. Nous avons pu interroger un autre intervenant, Bernard van Nuffel, président de Aqua Publica Europea, qui dispose à ce titre d'un poste d'observation très intéressant sur la diversité des modes de gestion de l'eau dans l'Union européenne.
Tu nous as parlé de la Belgique, par exemple, un pays où le système de l'eau, le service de l'eau est entièrement public.
Effectivement, donc c'est le cas de quelques pays européens, la Belgique, les Pays-Bas. Et donc dans ces pays-là, cette tradition, enfin cette... le fait que l'eau soit entièrement publique fait qu'il n'y a pas un combat pour l'eau, pour la remunicipalisation de l'eau, comme c'est le cas en France. Et donc, ça donne des approches assez différentes, parce que là où il y a une lutte pour remunicipaliser l'eau, avec des très belles réussites, hein, comme à Paris, il y a 10 ans, à Lyon, tout récemment, ce sont des avancées extraordinaires. Cette remunicipalisation s'accompagne d'une volonté d'approfondissement démocratique de la gouvernance de l'eau et de participation citoyenne vraiment active et de reconnaissance du droit à l'eau et à l'assainissement, d'effectivité du droit. Ce qui n'est pas, le cas ou qui n'est pas la préoccupation majeure dans les pays ou les villes où l'eau a toujours été publique. Là, c'est plus encore considéré comme un service de tuyau, on va dire. Plus que comme une problématique de sociétal.
Alors c'est assez étrange puisque nous sommes tous encadrés par la directive cadre sur l'eau, une directive qui a des principes, énonce des principes assez forts. Hein, et Absolument. Malgré cette directive cadre commune, il y a des grandes différences.
Oui, alors ça, évidemment, c'est bien une caractéristique de l'Union européenne. C'est un assemblage. Et donc, forcément, même s'il y a un cadre qui est posé, ce cadre nous a permis de fortement avancer, puisque voilà, un des aspects de la directive cadre eau, un des objectifs, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle les masses d'eau souterraines de surface. Et donc, ça a quand même mis, depuis une trentaine d'années, une réelle pression sur les États membres et sur les grandes collectivités territoriales pour qu'elles assainissent leurs eaux. Par exemple, si je prends le cas de Bruxelles, jusqu'en l'an 2000, il n'y avait pas de station d'épuration. Donc toutes les eaux de 1 200 000 habitants étaient tout simplement rejetées à la rivière.
Oh.
Voilà. Et sans la directive cadre eau, je ne suis pas sûr qu'on y serait arrivé.
Mais ça devait être infâme.
Absolument. C'était vraiment un égout à ciel ouvert. Il avait d'ailleurs été voûté pour la traversée du centre-ville. Depuis la fin du 19e siècle. Et donc il a vraiment fallu que cette réglementation européenne vienne mettre en fait une pression externe sur l'État membre qu'est la Belgique, mais aussi sur d'autres, pour que réellement des mesures soient prises. Donc voilà, ce cadre, il a l'avantage d'un cadre, c'est qu'il pose le cadre,
voilà.
Et qu'il nous donne une direction. Mais à l'intérieur de ce cadre, la philosophie de la gestion de l'eau, du cycle de l'eau, est très très variable. La culture de l'eau est très très variable d'un État membre à l'autre. Et donc on a effectivement des différences d'approche. Il y a un autre élément qui est important à relever, c'est que la directive cadre eau, elle caractérise la qualité de l'eau. Elle ne caractérise pas la quantité de l'eau. Et la quantité de l'eau, elle est même explicitement exclue par les traités fondateurs de l'Union européenne. C'est-à-dire que ça relève de la souveraineté des États membres. Et donc, cet aspect...
complètement l'euro, c'est leur...
Voilà, où en régler le partage. Et ça, comme président d'Aquapublica Europea, au début de mon mandat, en 2019, j'ai mis cette question sur la table, ce sujet sur la table, parce que, de plus en plus, nous faisons face, au sein de certains États membres, dans certaines régions, à des pénuries d'eau, des pénuries parfois très importantes. Et je pense qu'il est important qu'on ait un cadre politique où on se fixe des règles communes sur la priorisation des usages de l'eau. Pourquoi ? Ben pour éviter de potentiels conflits entre des régions, voire entre des États, sur le partage de l'eau qui reste, celle qui restera.
Et c'est écrit dans la directive cadre, la priorité à l'alimentation humaine.
Oui, mais quantitativement... La question du partage des eaux n'est pas réglée.
Les volumes, ouais.
Voilà, les volumes. Et on sait très bien quelle est la configuration des frontières. Ce sont souvent des cours d'eau ou des montagnes, avec de l'eau qui part d'un côté ou de l'autre. Et les montagnes qui sont des réservoirs, mais qui sont des réservoirs qui se vident avec la fonte des glaciers. Et donc on va avoir, à coup sûr, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, des changements importants au niveau du régime des cours d'eau. Je parle du régime du volumétrique. En certaines saisons, on va atteindre des débits d'étiage, etc. Donc c'est une problématique très très aiguë, à la fois évidemment sur le plan de l'approvisionnement en eau pour la consommation humaine, aussi celle des animaux, des plantes, l'agriculture, mais aussi pour l'énergie, le refroidissement des centrales, etc. Et donc on a toute une série d'usages concurrentiels de l'eau, et je pense qu'il est important qu'au niveau européen, ben, il y ait un cadre légal pour se dire mais comment on va se répartir l'eau qui reste. Quelle solidarité entre les États membres ou entre les régions au sein des États membres. Est-ce qu'un jour, il faudra des transferts nord-sud de l'Europe de l'eau, par exemple, des pipelines de l'eau. C'est une question...
Une question pour Marseille et Barcelone.
Mais absolument. Donc... ça, c'est, on va dire, un transfert sud-sud encore. Ouais. mais il y a peut-être une échelle plus importante.
Oui, alors, il y a une diversité d'approches, mais est-ce qu'il te semble qu'il y a une évolution en ce moment, dans un sens plus qu'un autre, dans le sens de la démocratisation ? Est-ce que les choses là vont dans le bon sens, à ton avis ?
Alors, l'impression que j'ai, elle est peut-être biaisée par les opérateurs que je connais ou qu'on connaît au travers d'Aquapublica. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que les réussites de remunicipalisation, je pense qu'elles font des petits d'abord. Il y a un effet d'entraînement. Et d'autre part, que elle montre aux opérateurs traditionnels qui sont déjà dans le régime de régie publique qu'il y a des évolutions nécessaires en matière de transparence et de démocratisation, parce qu'elles sont de plus en plus réclamées, à juste titre, par les citoyens. Et donc, cet effet de cette militance pour la remunicipalisation et pour la démocratisation de l'eau, pour l'effectivité du droit à l'eau, elle a un effet d'entraînement. Et ça, c'est très positif.
Merci Bernard.
Avec grand plaisir.
Ce petit tour d'horizon européen par Bernard von Nüffel, président donc d'Aqua Publica Europea, est l'occasion de rappeler que la gestion privée de l'eau est historiquement une spécialité française que nos deux fleurons, la Compagnie Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, ont réussi à exporter un peu partout et notamment en Amérique latine. Elles sont toutes les deux nées au milieu du 19e siècle et se sont développées après une loi de décentralisation qui a confié en 1890 le rôle d'autorité organisatrice de la distribution d'eau aux communes. Et la taille moyenne des 36 000 communes de France ne leur permettait pas les investissements nécessaires, même en se regroupant en syndicats des eaux. La gestion déléguée a été le plus souvent choisie par les communes puisque le risque d'exploitation est alors supporté par l'entreprise privée. Enfin, au premier abord, car les scandales ont été très nombreux. Le plus connu en France est sans doute l'affaire Carignan pour l'attribution du marché de l'eau à Grenoble en 1989 et en Amérique latine, la privatisation exorbitante du service de l'eau de Buenos Aires par Aguas Argentinas, une filiale de Suez Lyonnaise des Eaux, s'est terminée par la condamnation de la victime, l'Argentine, devant un tribunal commercial international. En France, le manque de transparence et de concurrence réelle, voire la corruption, ont sérieusement terni l'image de ce mode de gestion. À Bordeaux même, il y a eu quelques années, des remous autour de la délégation de Suez lorsque l'association Transcube avait mis son nez dans les contrats. Le mouvement de remunicipalisation de l'eau est donc assez récent et démarre vraiment avec le passage en régie d'Eau de Paris en 2010. Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'histoire de la gestion de l'eau en France et ailleurs. Nous indiquerons les références de quelques ouvrages utiles sur la page de l'émission. Avant de nous quitter, Gabriel nous présente une opération très spéciale qui se déroulera samedi 20 avril à Cadojac.
Donc ça s'appelle la Grande Vadrouille. C'est prévu le début à 14h à la gare de Cadojac. Donc les gens peuvent arriver directement en TER à cette gare. Et à 14h, entre 14h et 15h30, il y aura des prises de parole. Les collectifs seront présents. Il y aura des stands. Il y aura un point d'accueil. Pas mal de petites choses à ce moment-là. Et vraiment, le départ de la marche se fera à 15h30. Et l'idée, c'est d'aller dans Cadojac, de visibiliser les maisons qui sont détruites à cause des LGV, du coup. Et en particulier des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Et donc, on va marcher comme ça dans Cadojac en faisant deux points d'arrêt. Un premier point d'arrêt devant, justement, des maisons détruites. Et un deuxième qui sera plus une perspective naturaliste sur l'environnement qui, du coup, va être détruit à cause des LGV. Ça jusqu'à à peu près 17h et à 17h il y a plutôt une partie festive qui s'engage sur le reste de la journée avec de la musique, de la fanfare, des jeux, des activités qui sont prévues, notamment des activités de fabrication de panneaux, des choses comme ça qu'on envisage. Et c'est surtout bonus qui a été finalisé hier justement, qui serait que le soir on prévoit des concerts, enfin une partie plutôt festive dans un terrain qui est privé, qu'on nous a confirmé récemment, et donc du coup les gens peuvent rester la soirée, en tout cas on encourage à ça, et ça va être plutôt festif. Voilà.
Alors c'est une journée donc à l'initiative de tous les collectifs anti-LGV.
Alors on est membre de différents collectifs qui font partie d'une coordination qui s'appelle LGV No Merci, qui est une coordination de différents collectifs effectivement en lutte contre les LGV qui sont à travers tous les départements de Nouvelle-Aquitaine, donc les 5 départements. Et ces collectifs-là se réunissent régulièrement et quand on se réunit justement, on propose des idées de rassemblements, d'événements, de manifestations, enfin toutes sortes de mobilisations. Et c'est lors de ces échanges-là qu'on s'est dit qu'on pouvait faire ça collectivement et qu'on invitait du coup tous les collectifs à soutenir, à rejoindre et à organiser. Donc du coup, il y a un peu des membres de toute cette coordination-là.
D'où l'idée d'y être le plus nombreux possible samedi 20 avril à Cadojac, gare de Cadojac à partir de 14h.
Oui, c'est ça. Rendez-vous à 14h à partir à la gare de Cadejac et après on bougera un petit peu dans Cadejac.
Merci Gabrielle.